le magazine des Nations Unies.
Situation sécuritaire à Béni et Jean-Pierre Lacroix était en visite de travail en RDC du samedi 30 novembre au lundi 2 décembre. Pendant son séjour, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations a eu plusieurs contacts, aussi bien avec les autorités nationales que locales. Au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a fait le point de ses contacts. Des détails dans ce magazine. Le programme de mentorat clinique mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui de l'UNICEF a connu du 29 novembre au 2 décembre sa première revue annuelle à Kikwit. Ce programme vise à former des sages-femmes dans la prise en charge des problèmes du couple mère-enfant à l'accouchement. L'objectif est de réduire le taux de décès des mères et de nouveau-nés dans le Kwango et le Kwilu. Dans cette édition, Mac UN consacre une partie de son programme à cet événement. Plus de volonté politique pour surmonter l'urgence climatique, c'est l'exhortation d'Antonio Guterres aux États parties de l'accord de Paris. C'était à l'occasion de l'ouverture de la conférence des nations sur le climat COP25. Ouvert lundi 2 décembre à Madrid en Espagne, ce forum se poursuit jusqu'au 13. Pour le secrétaire général des Nations Unies, où l'humanité capitule, où elle continue sur le chemin de l'espoir face à la problématique du changement climatique.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, je vous rappelle encore une fois notre totale mobilisation. Nous avançons les yeux ouverts, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés, nous savons qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de notre côté. C'est dans ces termes, entre autres, que Jean-Pierre Lacroix a conclu son message au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa, avant de boucler sa mission en République démocratique du Congo. D'autres détails du message du secrétaire général adjoint de l'ONU avec Honoré Missingakalala.
Jean-Pierre Lacroix a évoqué au cours de cette conférence de presse ses rencontres, notamment à Béni avec le gouverneur du Nord Kivu et à Kinshasa avec le Premier ministre. Il a également fait part de sa visite au site de Biakato, le site de la réponse Ebola en Ituri qui a été attaqué, ainsi qu'au site de la MONUSCO près de Béni, à Boïkéné, lequel a également fait l'objet d'attaques et de dévastations. De ses contacts, le secrétaire général adjoint Lacroix a exprimé au nom du secrétaire général Antonio Guterres la totale solidarité et la compassion de l'ONU vis-à-vis de la population de Béni en souffrance et en particulier vis-à-vis des victimes des événements de ces dernières semaines. Concernant ces victimes, Jean Lacroix a indiqué qu'il y en a eu beaucoup dans la population, mais aussi parmi des Congolais travaillant dans la réponse Ebola, les membres des FARDC de la police nationale, ainsi que du côté de la MONUSCO. Autre message exprimé par le secrétaire général adjoint de l'ONU de ses entretiens avec le Premier ministre, les membres du gouvernement, le gouverneur du Nord Kivu et le chef d'état-major des FARDC, il s'est dégagé très clairement des autorités congolaises, a-t-il dit, une volonté et une réaffirmation de leur attachement au partenariat avec la MONUSCO. Une volonté qui cadre avec ce que le président Félix avait dit au secrétaire général des Nations Unies lors de son séjour en RDC en juillet 2019, a ajouté Lacroix. Et par rapport à ce partenariat, l'hôte de la RDC a indiqué que résolution a été prise pour le renforcer à tous les niveaux, national et local, et pour améliorer ensemble ce qui doit l'être dans la manière de travailler. Tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup de difficultés et beaucoup d'efforts à faire, Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé la totale mobilisation de la MONUSCO pour surmonter toutes ces difficultés au bénéfice de la population des Béni. Le secrétaire général adjoint a par ailleurs rappelé que le mandat de la MONUSCO vient d'abord de la demande des autorités congolaises et du Conseil de sécurité.
La prise en charge des problèmes néonataux et de la mère doit s'étendre à toutes les formations médicales du Kwango et du Kwilu afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans ces deux provinces. C'est la recommandation phare de la revue annuelle du programme de mentorat clinique organisée du 29 novembre au 2 décembre 2019 à Kikwit par le ministère de la Santé publique avec l'appui de l'UNICEF. La quintessence de ces travaux avec notre envoyé spécial sur place, Jean-Pierre Elali Koko.
Selon les statistiques du ministère de la Santé, les Kwango et les Kwilu accusent les taux les plus élevés de mortalité maternelle et néonatale en République démocratique du Congo. Tenez pour l'année 2019 finissant, une dizaine de décès des femmes et des nouveau-nés y ont été enregistrés à l'accouchement. Pareille situation ne pouvait perdurer, d'où la nécessité pour le ministère, appuyé par l'UNICEF, d'avoir mis en branle un programme de mentorat clinique de 2 ans destiné à renforcer les capacités des sages-femmes dans la prise en charge des couples mères et enfants. La revue annuelle tenue à Kikwit a donné des résultats certes positifs dans quelques zones de santé, mais il faut étendre ce programme à grande échelle dans les 2 provinces. La représentante de l'UNICEF à ce forum, Dr Francine Kimanuka, parle toutefois des insuffisances à combler.
Il y a encore des efforts à faire dans certains domaines, tels que la rationalisation des services, la tarification qui ne reste pas harmonisée. On a perdu certains staffs, certains mentorés, le problème des médicaments et aussi un problème d'insalubrité des fossats.
Mais pour y arriver, il faut de la détermination et surtout de la volonté de la part de tous les acteurs du secteur. Kikwit, Jean-Pierre Elali Ikoko, Radio Okapi.
Puisque nous parlons de cette revue annuelle, retrouvons la réaction de la ministre provinciale de la Santé du Congo, Madame Lama Mandando, se dit satisfaite des progrès réalisés par les différents prestataires qui sont pour la plupart des sages-femmes dans le cadre du programme de mentorat clinique mis en œuvre dans le Congo et le Kwilu. On l'écoute encore au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Les gens ne pleurent plus pour dire que non, la femme est venue donner la vie, la femme est décédée, soit son enfant est décédé. C'est-à-dire, il y a une amélioration. Mais le comble est que, même si nous avons fait de bons résultats, l'échantillon n'était pas représentatif. Pourquoi? La zone de santé de Kenge a 24 aires de santé, mais on avait sélectionné que 6 aires de santé. Même si nous avons fait de bons résultats, tous ces résultats-là, quant à moi, ça sera englouti par rapport aux indicateurs des autres aires de santé non sélectionnées. C'est pourquoi je souhaite que le partenaire puisse mettre à l'échelle les programmes, que les programmes soient étendus dans toutes les zones de santé de la DPS Kwango. Pour pérenniser les acquis, peut-être à notre niveau, étant que membre du gouvernement provincial, nous allons mener un plaidoyer auprès du gouvernement provincial, auprès de l'exécutif, pour voir comment pérenniser ces programmes dans notre province.
Comme annoncé dans le sommaire, il se tient à Madrid depuis le lundi 2 décembre la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP25. À l'ouverture des travaux qui se poursuivent jusqu'au 13 décembre prochain, le secrétaire général de l'ONU a interpellé les États du monde face à l'enjeu du changement climatique. Honoré Missinga Kalala pour plus de détails.
Dans sa communication à l'ouverture des travaux de la COP25, Antonio Guterres a présenté 2 voies possibles sur la problématique du changement climatique, capituler et garder espoir. Pour le patron de l'ONU, d'ici la fin de la décennie à venir, l'humanité sera sur l'une ou l'autre de ces voies. Le moment est donc critique, a fait savoir Antonio Guterres, soulignant par ailleurs que le monde a toutefois les outils technologiques et scientifiques ainsi que les ressources nécessaires pour contrer le phénomène du changement climatique. Nous n'avons pas de temps à perdre, a-t-il tranché en déplorant le manque de volonté politique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% par rapport au niveau de 2010 d'ici la prochaine décennie est le seul moyen de limiter la hausse de la température, a rappelé M. Guterres aux États. Le plaidoyer du secrétaire général de l'ONU était plus adressé aux grands émetteurs de gaz à effet de serre, notamment les pays du G20 appelés à faire plus dans cet effort. Les pistes pour protéger le climat, a-t-il encore rappelé, sont une meilleure tarification et taxation du carbone, l'abstention de construire des nouvelles centrales à charbon après 2020, la cessation des subventions aux combustibles fossiles, l'assurance d'une transition écologique juste sur le plan des emplois, ainsi que la formation continue et la protection sociale.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Restons toujours à Kikwit pour évoquer les recommandations de la revue annuelle du programme de mentorat clinique organisé à Kikwit par le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF. Docteur Donna Kumakuma, chef d'antenne de coordination de la division provinciale de la santé du Kwilu, s'est entretenu à ce sujet avec Jean-Pierre Elali Koukou à la fin des travaux.
Merci, c'est Docteur Donna Kumakuma. Je suis le chef d'antenne de coordination de la division provinciale de santé du Kwilu, basée ici à Kikwit.
Oui, Docteur Donna, nous venons d'assister pendant 3 jours la revue à mi-parcours de ce programme. qu'est-ce que nous pouvons retenir de recommandations?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est comme vous l'avez dit, ce n'est qu'une revue à mi-parcours qui s'est bien déroulée. Bon, comme vous le savez, c'est un programme qui a été mis en œuvre dans les deux provinces en ce qui concerne l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né de l'enfant. La revue que nous venons de faire, c'est déjà la deuxième revue depuis la mise en œuvre. Il faut dire qu'il y a une nette amélioration de la plupart des indicateurs en ce qui concerne l'offre de soins. D'une façon générale, les grandes recommandations sont adressées tant aux zones de santé qu'au niveau des DPS et même au niveau central. Au niveau des zones de santé, ce qu'on leur demande, c'est de plus s'approprier du programme, vu l'impact et surtout les quelques résultats satisfaisants qui venaient d'être présentés, que les équipes cadres des zones de santé puissent vraiment s'approprier du programme pour que ça soit vraiment quelque chose intégré dans les routines. Et au niveau des divisions provinciales de la santé qui sont chargées à accompagner les niveaux opérationnels, les zones de santé, là, ce qu'on demande, c'est de continuer les missions d'accompagnement, mais que ça soit un peu plus un accompagnement rapproché et technique pour aider et les mentors qui vont sur le terrain, mais et les mentorés qui ont été formés à s'améliorer davantage. Au niveau central, que ce soit le niveau central, les partenaires ou alors le ministère de la Santé, ce que l'on demande, c'est de réfléchir comment passer à l'échelle. Vous savez que ce programme est intégré effectivement, mais pas dans toutes les zones de santé de nos DPS. Donc c'est quelques zones de santé et en termes de couverture, cette couverture est faible. Donc nous demandons si on peut passer à l'échelle, ajouter le nombre de zones de santé et même dans ces zones de santé, ajouter le nombre des aires de santé et comme ça ces meilleurs résultats qu'on venait d'obtenir ici soient généralisés à la longue dans toutes les autres zones de santé. Et là, on aura une nette amélioration, n'est-ce pas, de la santé de la mère et de l'enfant.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de ce programme?
Bon, en principe, tel qu'il était monté, le programme tend à sa fin. Mais ce que nous voulons, nous, c'est d'envisager un passage à l'échelle. Arrêter brutalement ce programme maintenant, sans mécanisme de pérennisation, sans mécanisme de transition pour pérenniser ça, serait créer la mort à nos femmes qui veulent venir accoucher.
Mais il y a aussi un problème qui a été évoqué dans les coulisses, c'est justement le problème du personnel médical. Disons, les médecins administratifs ils sont plus nombreux et ils ne travaillent pas. C'est ce qui cause aussi beaucoup ici dans les deux provinces qui cause le taux de mortalité le plus élevé à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez épinglé ce comment y remédier? Parce qu'il y a beaucoup d'abstentéisme pour les médecins et autres personnel médical sont devenus des hommes d'affaires.
Oui, ce problème de pléthore de personnel dans nos formations sanitaires a été relevé et pour ça, vous avez suivi, les deux ministres provinciaux se sont engagés d'ici la fin du programme pour voir comment m'atteler sur cet aspect pour redistribuer puisque il faut dire qu'ils sont très nombreux dans des villes pendant que dans les milieux ruraux les plus reculés là, on a besoin d'eux. Donc les deux ministres se sont engagés pour une redistribution, une réaffectation, et je crois que nous allons nous mettre pour être les souffleurs de nos deux ministres pour que cette option qu'ils ont prise soit réalisée. Mais le grand problème par rapport à cette ressource humaine, c'est que, vous avez suivi, ce sont les plaintes des mentorés, des prestataires qui sont sur terrain, les sages-femmes qui sont sur terrain, qui se plaignent qu'ils ne sont pas motivés. Et cette motivation, c'est vrai, outre notre accompagnement, c'est l'accompagnement déjà que les mentors et les DPS font, sont déjà une forme de motivation. Mais ce que nous avons recommandé au niveau central aussi, c'est de voir, puisque la plupart de ces mentorés n'ont ni prime de risque, ni salaire, il y en a qui ne sont même pas mécanisés. Et un plaidoyer a été fait dans ce sens, via les représentants du secrétaire général de la santé qui est venu, pour voir comment on peut identifier tous ces mentors qui sont intégrés dans ces programmes, et qui ne sont pas payés par le gouvernement congolais puisque le partenaire a fait son travail, le reste c'est la part du gouvernement et on va faire un plaidoyer pour que ces mentorés puissent ne serait-ce qu'être mécanisés et bénéficient, n'est-ce pas, de la prime de risque et pourquoi pas du salaire si les moyens le permettent dans le budget du gouvernement qui sera voté pour l'année 2020.
Docteur Donat, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nos nouvelles en bref maintenant. La force de la MONUSCO a un nouveau commandant. Il s'agit du général brésilien Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves. Il a été nommé le mardi 3 décembre 2019 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en remplacement de son compatriote, le lieutenant-général Elias Rodriguez Martins Filho. Celui-ci avait achevé son mandat le 31 octobre 2019. Jusqu'à sa nomination à la tête de la force de la mission onusienne en RDC, le général Costa Neves était directeur d'évaluation et de la promotion au commandement de l'armée brésilienne depuis fin 2018. Force de la MONUSCO encore, des casques bleus de la mission basée à Bibatama étaient en patrouille pédestre la semaine dernière avec une équipe multidisciplinaire de la MONUSCO et du gouvernement. Cette équipe était allée dans le haut plateau de Kaléé, nous sommes dans la province du Sud Kivu, pour évaluer la situation sécuritaire dans cette contrée. Les opérations menées par les forces armées congolaises FARDC contre les groupes armés ont occasionné dans cette partie de la province du Sud Kivu des déplacements massifs des populations. Certaines de ces populations ont trouvé refuge près de la base militaire temporaire de la MONUSCO à Bibatama. $262 millions américains, c'est le montant que cherche le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour la réponse humanitaire aux besoins des enfants en 2020. Au total, l'UNICEF a besoin de $4,2 milliards afin de venir en aide à 59 millions d'enfants dans 64 pays du monde. Mercredi 4 décembre 2019, l'agence a lancé un appel d'urgence pour récolter ce montant, dont 262 millions pour les enfants de la République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
3 ans après les événements de Kamuna Sampu, où les déplacés du Kasaï qui ont fui à Kikwit sont bien intégrés et la cohabitation avec les familles d'accueil est pacifique, la bourgmestre de la commune de Kanzamba à Kikwit, Madame Suzanne Israël Loussa Tukasu, qui a accueilli plus de 7000 déplacés dans sa circonscription, est l'un des artisans de cette intégration et de cette cohabitation. La bourgmestre est l'invitée du magazine des Nations Unies. Jean-Pierre Lali Koko a pu la rencontrer lors de son passage à Kikwit. Suivez leur entretien.
Maman Suzanne Israël, bonjour. Nous allons aborder un peu le problème des déplacés du Kasaï à la suite des événements de Kamuna Sampu dans cette province il y a 3 ans, donc en 2017. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui?
La situation était telle que vous l'avez appris. Si ceux qui vous ont envoyé ici savent que c'est Maman Suzanne, la première femme qui a commencé à accueillir les déplacés du Kasaï dans la ville de Kikwit. Depuis le mois de février 2017, le premier site ici dans la ville de Kikwit, c'est le site de Kazamba, et qui a eu beaucoup jusqu'à ce jour, beaucoup de déplacés, mais plusieurs se sont déjà intégrés, j'ai fait voyager plusieurs dans leurs milieux respectifs.
Il y a des qui sont rentrés au Kasaï.
Ne pensez pas que tous étaient originaires de Kasaï. Il y a eu des déplacés de Kasaï, originaires de Kasaï. Il y a eu de déplacés de Kasaï, originaires de Kwango, de Bandundu, de Kwilu. Il y a d'autres originaires de Bakongo et originaires de Kinshasa.
Et alors, si vous les avez accueillis ici dans la commune de Kazamba, ils étaient en nombre de combien?
Au départ, mon frère, c'était terrible. Ils étaient au nombre de 7622 que j'avais accueillis ici. Et c'était pitoyable de voir les petits-enfants, les blessés. J'ai toutes les photos, les blessés à partir du Kasaï, les rescapés, ceux qui étaient brûlés, à moitié brûlés, et je les ai fait hospitaliser.
Et vous les avez répartis dans combien de camps?
J'ai parlé d'abord à la radio communautaire. J'ai lancé un SOS aux âmes de bonne volonté de nous venir en aide. Il y avait un serviteur de Dieu qui est passé ici à la commune et qui avait trouvé une marmaille de déplacés. Si vous n'allez pas vous en sortir seul, si vous pouvez demander aux gens de bonne volonté de vous porter de l'aide. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai parlé à la radio, j'ai pris aussi parole à la radio Okapi et j'ai failli être suspendu parce que j'avais parlé à la radio Okapi. Je dois le dire sincèrement. Pourquoi? Je devrais parler à la place du maire. Dans le conseil de sécurité, il y a des gens qui m'avaient défendu, qui ont dit non, elle n'a parlé que de sa commune.
Revenons à la question que j'ai posée.
À la question, comment on les a intégrés, comment je les ai accueillis. Un, je leur ai offert une de mes maisons pour les caser.
Une maison pour 7000 personnes, c'est la promiscuité,
oui,
ça ne peut pas.
Je vous dis non, j'ai pris ceux qui étaient plus vulnérables, plus démunis.
Les enfants et les vieilles personnes.
Oui, dans un premier temps. Nous avons mis des tanks pour les recevoir. Tellement l'effectif était grand. Il y a des églises aussi à qui j'ai demandé service de les accueillir. Comme la parcelle a une dimension réduite, 25 mètres sur 20, ça ne pouvait pas regorger 7000 personnes ou plus. C'est pourquoi j'ai demandé aux familles d'accueil, les familles de bonne volonté, s'ils voulaient accueillir ces gens qui étaient démunis et qui n'avaient pas de place. Que chez moi, par exemple, j'en ai reçu, je crois, dans ma maison propre, dans un premier temps, 13. Et puis, j'ai loué des maisons pour les mettre.
Plus de 3 ans après, madame, j'ai eu de la peine à trouver même ces déplacés. Comment ils se sont intégrés finalement?
Voilà. Bon, au fil du temps, ils ont commencé d'abord à apprendre le Kikongo. Actuellement, si vous les interrogez, quelques-uns qui sont restés, ils parlent très bien le Kikongo, mais au départ, c'était difficile. Il y a d'autres que j'avais mis dans des fermes, qui ont voulu rester dans des fermes pour cultiver, pour se prendre en charge. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a ceux qui sont restés dans des fermes.
Donc, ils sont intégrés.
Ils sont intégrés. Actuellement, où je vous parle, ils sont intégrés. Et dans des familles, il y a eu des gens, des partenaires qui sont intervenus pour les prendre en charge. Et chez moi, au site de Kazamba, quand j'ai parlé à la radio Okapi, ça réveillait l'attention même des autorités politico-administratives. Une députée qui est venue, Micheline Koulumba, il y a eu le vice-gouverneur qui est arrivé, il y a eu vraiment toute une succession de choses. C'est comme ça, par après, les sites se sont créés, à travers Kikuit. On peut dénombrer aujourd'hui 7 mais qui ont été identifiés, où les déplacés ont habité. Ils habitent, mais pour le moment, en tout cas, je dois vous dire, plusieurs ont regagné leur milieu d'origine.
Vous avez abattu un grand travail, madame. Maintenant, comment se passe la cohabitation? Parce que certaines langues ont dû faire allusion à une cohabitation qui ne fait pas tout à fait passer.
Oui, je dois vous dire ceci. Moi, je suis chrétienne et je suis femme. Je suis responsable. Je suis une femme humanitaire de mon bas âge. J'ai pris en charge ici les handicapés. Au départ, quand ils sont venus, il y avait une petite guerre froide. C'était quoi? Au Kasaï, les Kamwanansapu, c'était une guerre tribale, non? Entre les Tchokwe, les Pende et les Luba. On voulait amener cette guerre ici à Kikuit. C'est pas dans ma commune, mais en dehors. Mais je dois vous dire vrai que cela ne s'est pas fait. Cela ne s'est pas réalisé, faire la guerre ici contre les Baluba ou contre les Kasaï. Non, je vous dis non. On n'a tué aucun Luba ici. C'est moi qui vous dis, moi je suis femme, je suis maman, responsable, je suis des droits de l'homme. Nous avons fait retentir nos voix dans des médias. Même le maire de la ville, il a parlé.
Mais on a parlé de 10 morts.
C'était quoi? Vous savez, avec les élections, il y avait des polémiques entre l'opposition et le gouvernement en place. Et vous savez qui ont été votés? C'était une guerre politique, une guerre médiatique. Il y a eu un débordement. Les jeunes, avec les refoulés d'Angola, voulaient faire les pillages, les habitants de Kikuit. Maintenant, les services de sécurité se sont interposés pour arrêter cette hémorragie. Ils ont même attaqué le général de la 11e région militaire. Ils voulaient l'enlever. Il a eu même des blessures. Il y avait des inciviques qui voulaient vraiment s'en prendre à la population. Vous comprenez? C'est pourquoi les services de sécurité a intervenu. Et dans cette intervention, il y a eu des balles perdues pour les récalcitrants, pour les jeunes qui voulaient piller. C'est comme ça qu'il y a eu des morts.
Il y a eu combien au total?
Au total, parlait de plus ou moins 13 personnes. Pas ça parmi les déplacés. Aucun déplacé n'a été touché. Si les déplacés étaient touchés, que les familles les déclarent. Oui. Personne. Vous pouvez mener les enquêtes. Il n'y a personne. Avec les Kassai, d'ailleurs, nous sommes des cousins. Nous cohabitons, nous sommes mariés.
Absolument.
Et ils ont trouvé des mariages.
Parlons un tout petit peu de la cohabitation maintenant. Est-ce que la cohabitation est pacifique?
La cohabitation est calme, pacifique. Vraiment dans la solidarité.
Ils sont intégrés.
Mais ce sont des Congolais. Je vous dis, les Baluba, ils sont à l'aise, ils ont leur magasin. Si vous sortez, ils vendent. Les mamans font des beignets, les mamans font n'importe quoi. Il y a des mariages, il y a la cohabitation qui est vraiment en bonne et due forme.
Oui, quelle leçon nous pouvons tirer de cette cohabitation, de l'intégration?
La leçon que nous pouvons tirer d'abord, avec cette information fausse, soi-disant que les Baluba ont été tués ici, ça émane de vous les journalistes. Vous pouvez prendre les photos au niveau des Kasaï et vous les balancer, vous les adapter au niveau des Kikuit. Vous faites un montage pour dire que c'est passé à Kikuit pendant que ce n'était pas ici. Uniquement pour des buts lucratifs. Ces images, ce sont des images, je vous dis, qui sont erronées, que vous devez vraiment barrer dans l'histoire du Congo, dans l'histoire de notre pays. Le Congo est un pays courtois. À qui appartient cette terre? La terre ici appartient à Dieu. Et chaque citoyen est libre là où il est.
Madame Suzanne Israël, je vous remercie.
Je vous remercie également.
Rendons-nous encore à Beni, au Nord Kivu, avec cet appel de l'OMS aux jeunes qui manifestaient jusque la semaine dernière pour leur demander de ne pas s'en prendre aux équipes de riposte contre Ebola. Suivez plutôt l'interpellation du docteur Michel Kalungu, responsable de la commission surveillance épidémiologique à la coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola à la jeunesse de Beni. Il est au micro de Sekombi Katondolo.
Nous sommes obligés de protéger la population de Beni. Et pour protéger cette population, donc nous sommes obligés de travailler, même s'il y a l'insécurité. On doit travailler pour ne pas laisser que la maladie continue son bon chemin. C'est vrai, il y a l'insécurité et nous sommes en train de lutter qu'on termine l'insécurité, mais il faut qu'on termine aussi la maladie. Et c'est pour cela qu'on va demander à la jeunesse de faciliter surtout les ambulances et de faciliter les investigations dans les équipes de la riposte sur les terrains pour qu'on finisse une fois avec la maladie et, si Dieu voulait, même avec l'insécurité.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Je vais cette question posée à Jean-Pierre Lacroix au cours de sa conférence de presse à Kinshasa le lundi 2 décembre dernier et bien entendu aussi sa réponse.
RTNC2 Développement, Laetitia Massela, Monsieur Lacroix, bonjour. Vous vous êtes imprégné de la réalité désolante de ces derniers jours à l'est de la République démocratique du Congo. À vos yeux, quel est le schéma efficace et durable à appliquer pour mettre fin aux multiples drames humanitaires vécus par les populations, drames humanitaires qui préviennent de guerres qui se déroulent à l'est de notre pays? Merci.
Bien, je crois qu'il n'y a d'abord pas de réponse simple. Et on entend souvent, vous, la MONUSCO, vous devez nous débarrasser de ces groupes armés, et puis une fois que vous aurez fait le travail, et souvent on nous dit, vous le faites tout seul, la question sera réglée. Je ne méconnais pas du tout la responsabilité que nous avons au titre de notre mandat. Donc croyez bien que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'importance d'améliorer notre réponse et notre effort est vraiment non seulement sincère, mais sera suivi d'action. Maintenant, vous avez une problématique qui, je crois, est plus large, et c'est pour ça que je dis qu'à côté des efforts pour restreindre peu à peu, avec des opérations de nature sécuritaire, restreindre l'espace de ces groupes armés, notamment des ADF, qui mènent une guerre asymétrique, il faut travailler auprès des populations pour leur redonner confiance, pour amener des projets et des actions qui amélioreront leur quotidien et qui leur montreront que le chemin de la paix est possible. C'est la raison pour laquelle nous avons échangé avec nos partenaires, à la fois à l'intérieur des Nations Unies, mais aussi l'Union Européenne et Banque Mondiale, sur l'importance qu'il y avait à mobiliser rapidement des ressources pour qu'en complément de nos actions sur le plan sécuritaire, et je voudrais associer aussi la police, parce qu'il y a important aussi, et nous allons y travailler, de renforcer non seulement notre coopération avec la police, mais aussi notre propre présence en matière de police. Donc, ces projets de nature de développement, de nature humanitaire, qui permettent d'avancer, de faire avancer la stabilisation. Donc, il y a un ensemble d'actions qui sont complémentaires les unes aux autres. Mais j'ajouterai aussi l'impunité. Et l'impunité, c'est d'abord la responsabilité, ou plutôt la non-impunité, le rejet de l'impunité, c'est la responsabilité première des autorités judiciaires de ce pays. Je crois qu'il est essentiel que ceux qui sont responsables des crimes contre la population puissent être appréhendés, traduits en justice et rendre compte de leurs actes. Et dans un contexte où nous soutenons sur le terrain et nous allons essayer d'améliorer et de faire tout le possible pour améliorer la nature de ce soutien, la nature de cette réponse commune, nous avons une responsabilité aussi pour faire en sorte que les autorités, notamment la police, puissent appréhender les responsables et de faire en sorte qu'ils soient jugés.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
De date à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence, le 9 décembre, c'est la journée internationale contre la corruption et le 10 décembre, la journée internationale du droit de l'homme. Cette émission touche à sa fin. Elle a connu la collaboration technique de Mimi Kindou avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Jean-Pierre Elali Koko était à la coordination et au reportage. Honoré Missengakala au reportage également ainsi qu'à la réalisation. Toute l'équipe vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée. Retrouvez cette émission en rediffusion ce soir à 19h05 heure de Kinshasa et le mercredi à 14h05 sur la fréquence de la paix. Excellente condition d'écoute des programmes de Radio Capi.